Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans l'émission Écho de ma commune et de mon canton. J'ai le plaisir d'être reçu aujourd'hui par Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres, pour évoquer les dossiers de la rentrée. Ils sont très nombreux parce que Chartres continue d'investir malgré une situation évidemment très compliquée pour toutes les municipalités de France et de Navarre. Vous l'avez dit d'ailleurs dernièrement dans Chartres, votre ville, l'incertitude des temps qui prévaut aujourd'hui dans notre pays ne doit pas nous empêcher d'agir ici. Bien au contraire, dites-vous.
Oui, parce que moi, je suis plus très jeune et je m'aperçois qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est une chance. Les choses se réorganisent. On ne vit plus de la même manière. À chaque fois, moi, j'essaye de rebondir. Alors, en plaisantant, je dis, bon, pendant 20 années, un peu plus de 20 années, là, on a été à fond hein, sur Chartres. Et puis maintenant, on va accélérer. Donc, on va essayer de rebondir sur cette crise. Et j'ai plein d'idées, bien sûr.
Alors vous pouvez aussi miser, si j'ose dire, sur les membres de votre équipe. Vous en faites l'éloge. Vous dites qu'ils sont autant de chefs de projet. Et je redis cette phrase que vous aimez prononcer de temps à autre. Vous préférez freiner les chevaux que tirer les bœufs.
Ouais, non, oui, je le dis comme ça. C'est une façon de... Je préfère freiner des purs sangs, je dis, plutôt que de tirer des bœufs. Oui, c'est une expression, je trouve, qui est bien imagée. C'est-à-dire que souvent, les gens ont peur d'encadrer des gens brillants, des gens plus forts que soi, quoi. En fait, moi, j'ai passé ma vie à ça. J'ai toujours travaillé en faisant du management et j'aime bien m'entourer de gens très compétents. D'abord, il faut qu'ils soient loyaux, parce que le type qui n'est pas loyal, s'il est intelligent, faut s'en méfier. Mais ensuite... voilà, j'aime bien être entouré de gens qui ont un potentiel et puis leur donner cette liberté d'expression, de création, créativité, faire de l'expérimentation et puis à la fin, ça donne quelques résultats, quoi.
Un secret de vos réélections successives aussi peut-être le fait d'avoir su réunir et fédérer une équipe autour de projets qui sont aussi excitants finalement pour les gens qui aiment agir.
Oui, d'abord fédérer une équipe, vous savez, regardez, c'est... Moi, souvent, j'entends les critiques qui se demandent, il est autoritaire, il délègue pas. Bon, ils n'ont jamais vécu avec moi, ils ne peuvent pas savoir, bien au contraire. En fait, le secret, c'est d'abord d'avoir un projet, parce que bon, un projet, une équipe. Donc, le projet dès 2001, on dit un projet pour votre ville. Donc, vous voyez, le titre était là. Donc, et puis ensuite, une équipe qui, depuis 2001, dure. Alors, tout le monde n'est plus là. Malheureusement, il y en a qui nous ont quittés, et puis d'autres sont partis ailleurs. Elle se complète, elle se renforce. Bien sûr, c'est pas un homme tout seul qui fait, c'est une équipe, mais il faut un projet. Et puis, vous voyez, moi je regarde ce qui se passe, notamment sur le département. Vous voyez les problèmes qu'il y a dans beaucoup de municipalités où ça se chamaille, ça se dispute, ça divorce, il se passe plein de choses. Mais c'est étonnant parce que souvent on dit, ouais, le maire de Chartres, pas facile, peut-être autoritaire, il n'élègue pas. Et en fait, regardez, depuis 22 ans, c'est le calme olympien. Alors de temps en temps, on tombe sur une ou deux personnes pas loyales, mais le système les éjecte. On a eu ça depuis le début de ce mandat. Il y a une personne qui jouait un jeu un petit peu différent. Elle se fait éjecter par le système. C'est le système qui l'éjecte. Vous voyez, donc, ça aussi, c'est un modèle Gorge, peut-être un peu, je le revendique. Mais le résultat, c'est qu'on arrive à avancer, on a des projets, de temps en temps, on se plaint que c'est long, mais tout finit par aboutir.
Alors le travail continue bien évidemment. On va peut-être démarrer par le centre-ville, extension du secteur sauvegardé de Chartres avec la signature aussi du plan de gestion de la cathédrale, les abords de la cathédrale qui vont changer. Donc le visage de Chartres continue de se modifier.
Ben oui. Alors le secteur sauvegardé, bon... C'est une anomalie et non, parce que moi j'étais critique, je disais que quand ce secteur sauvegardé a été installé, toute la zone commerçante n'était pas dedans. Alors je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça? Donc parce qu'aujourd'hui ça pénalise la rénovation des bâtiments, un certain nombre de choses. Mais en fait, j'ai eu une explication récemment, en réfléchissant sur le stationnement, c'est qu'en fait les offres de stationnement de centre-ville étaient place du Cygne, Marceau, la place là, des Halles. Et en fait, si ça avait été dans le secteur sauvegardé, il fallait enlever ces espaces aériens, puisque ce n'était pas ça tout à fait la ville de l'époque. C'était bâti tout ça. Et donc, ça a dû couper cette tranche, à peu près 17 hectares. Donc, on a remis de l'ordre dans tout ça. Maintenant, le secteur sauvegardé, c'est la ville historique, avec ses boulevards. Les boulevards ne sont pas dedans, ceinturés par les boulevards. C'est 81 hectares. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Alors... dedans, bien sûr, on travaille sur un certain nombre de choses. Vous avez dit la cathédrale, bien sûr, la cathédrale, elle est là, elle va rester, on va pas y toucher, on essaye de la soigner. Je remercie l'État qui fait le nettoyage extérieur, intérieur, qui a fait déjà un certain nombre de choses à l'extérieur. Mais là, maintenant, on a un projet finalisé pour le cloître Notre-Dame, qui pour nous doit être sanctuarisé. Il doit pas avoir la même vie que les zones piétonnes, c'est différent. Donc on veut vraiment y supprimer la voiture et faire vraiment du très doux. Et puis comme on a un projet sur le terrain qui appartient à la ville devant le portail royal, un projet très intéressant qui sera dévoilé bientôt, on travaille, on a pratiquement finalisé, on va présenter ça à la Commission nationale du patrimoine et puis ensuite on le présentera au Chartrain, donc là on pense avoir quelque chose d'abouti et avec tout ce qu'on va y faire dedans, avec la cosmétique vallée, le vitrail qu'on va remettre vraiment un peu plus en avant puisque là il est un peu coincé dans le ciel de l'Oise, donc il y a tout un projet pour ce cœur de ville. Alors, bien sûr, ce plan de gestion de la cathédrale voulu par l'État, présidé par la préfète et le maire de Chartres, eh bien, il a abouti, on a inscrit un certain nombre de choses, et en complémentarité avec la directive paysagère, ça va permettre de protéger beaucoup plus encore cette cathédrale. Ça fait 8 siècles qu'elle est là, et il faudrait pas tomber dans des périodes courtes où on saccage ce que l'humain a réussi à construire, c'est la merveille des hommes, et donc on est capable de foutre ça par terre en quelques décennies. Donc nous on protège tout ça, et puis on investit beaucoup pour le rendre durable.
Alors, autre projet d'envergure, c'est la revitalisation du plateau nord-est avec la reconfiguration du quartier de la Madeleine, la construction du nouveau parc des expos de Chartres Métropole, et puis un vaste projet d'aménagement des 260 hectares de l'ancienne base aérienne 122. Ça aussi, c'est encore des projets structurants et des projets d'envergure.
Oui, des gros projets, mais là-dessus, on a commencé à y réfléchir en 2005, on a sorti un projet en 2007. Alors, on aurait pu poser assez rapidement, s'il n'y avait pas eu un obstacle, la Commission nationale d'aménagement commercial, pour poser déjà la zone commerciale. Mais je me dis, c'est un mal pour un bien, parce que on va faire évoluer les choses, parce que les choses évoluent régulièrement, et peut-être que ce qu'on allait faire n'était pas si moderne que ça, donc là, il y a encore d'autres possibilités plus intéressantes. Mais bien sûr qu'on accélère. Là, on accélère parce que vous voyez déjà le parc d'expo se construire. Donc une fois qu'on aura retiré le parc d'expo existant, donc début d'année 2024, on aura une quarantaine d'hectares disponibles pour y remettre la zone commerciale qui est sur la Madeleine, pour faire respirer la Madeleine, parce qu'à la place, on y mettra des logements et on va desserrer la Madeleine, mais aussi une zone tertiaire, des besoins de tertiaire, une zone de 10 hectares à peu près de tertiaire, continuer les propylées, quoi. Vous voyez, c'est tout ça. Et puis, on se pose des questions un jour de délocaliser l'hippodrome. L'hippodrome, il n'est pas un bon endroit. Là, dans la continuité, on peut urbaniser correctement, notamment avec la zone vie de la base aérienne, puisque base aérienne a fermé ses portes en 95, vous vous rendez compte, hein. Là aussi, hein, 30 ans après, on va intervenir, hein. C'est quand même particulier, hein, ce temps des projets, ce temps politique. En tout cas, tout ça, c'est en bonne voie. J'en ai parlé un peu au niveau des vœux. On y voit clair, on avance. Et puis, surtout, la difficulté, c'est garantir l'économie de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas l'impôt qui va équilibrer tout ça. Et bien au contraire, il y a de l'activité économique, il y a de l'urbanisation. Et ça doit générer notamment du produit fiscal pour la ville de Chartres, pour pouvoir financer tous ces plans de réaménagement, de modernisation du logement social et autres. Donc voilà, très intéressant. Alors, quartier de la Madeleine, c'est important, parce qu'il n'est pas dans ce plateau de la base aérienne, mais il est en face. Je disais tout à l'heure, la zone dite « carrefour », entre guillemets, c'est vraiment une imperméabilisation des sols sur 20 hectares. 20 hectares imperméabilisés, ça c'est fou. D'ailleurs, quand il pleut, je vous garantis qu'à Saint-Cheron, en dessous, on déguste. Et pourtant, c'est en hauteur. Et bien, vous voyez, tout est inondé. Donc, quand on fera le passage de l'autre côté, il y aura des solutions qui feront que tout cet espace de stationnement disparaîtra. Alors, dites comment faire, vous allez voir, il y a des solutions. Donc voilà, tout ça, ça se prépare, ça se monte gentiment.
Oh, vous l'avez dit là tout à l'heure, vous l'avez aussi rappelé lors de vos vœux, le temps des projets, le temps politique, c'est pas pareil. Le temps des projets en France, c'est la machine est un peu grippée, on va le dire, comme ça, poliment. Néanmoins, l'opération Cœur de Ville et l'opération de revitalisation du territoire à laquelle vous avez adhéré vous permet quand même d'avancer, hein.
Oui, alors là, c'est que, oui, bah, en plus, moi, j'étais contre, je voudrais pas que Chartres soit dans l'opération Cœur de Ville. On disait, toutes les villes qui ont des problèmes, on va les rentrer dans l'opération Cœur de Ville. En fait, nous, on a un commerce qui marche bien, parce qu'on a pris la mesure il y a 20 ans. On a bien vu ce qui se passait. Donc, on a déjà mis un certain nombre de solutions en place. Alors, maintenant, l'État, à travers le projet Cœur de Ville, apporte des outils supplémentaires qui vont nous permettre d'aller plus vite, hein, de s'affranchir un certain nombre de choses. Déjà d'être référencé cœur de ville, ça va donner des choses. Et puis, peut-être avoir aussi des possibilités financières différentes. Et là, moi, je sens vraiment une différence par rapport à notre façon de le mener avant et aujourd'hui. Et en fait, vous disiez cœur de ville et l'opération de ORT, de revitalisation de territoire, eh bien, vont nous permettre de faire le plateau nord-est, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on va s'affranchir de tout un tas de strates administratives pour enfin mettre des solutions en place. D'ailleurs, je constate que Madame Borne, qui relance le plan du nucléaire, le programme nucléaire français, et en réactivant les centrales, mais en proposant d'autres, son premier axe, c'est de dire simplifier les procédures administratives pour commencer à travailler, quoi. Donc ça, c'est un aveu, mais c'est une bonne décision.
Vous dites qu'il y a quand même beaucoup à faire. Hein. Vous dites que finalement la République est aux mains des énarques aujourd'hui et que ce sont des usines à gaz à n'en plus finir.
Oui, moi je dirais oui que l'énarchie a créé un monde de fonctionnaires. Et en fait, aujourd'hui, quand il y a une personne qui travaille, il y en a 10 qui le contrôlent, qui demandent des comptes. Et ça, comme tout type de système de ce type, enfin de cette forme, ça finit mal. Vous voyez bien, les médecins nous disent qu'ils passent 30% de leur temps pour faire de l'administratif. Moi, les projets, regardez, bon, vous étiez pas là, mais dans mon premier mandat, en 7 ans, entre 2001 et 2008, regardez ce qui a été posé sur la ville. Aujourd'hui, je vois les nouveaux élus, ils se disent « mince, on a déjà fait 3 ans, on n'a rien posé ». Ils sont inquiets d'ailleurs, ils vont peut-être rien poser sur le premier mandat. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, dit, s'ils ont rien fait, on les vire. On fait ça, on les vire. Et puis derrière, ben, on recommence. Et donc c'est la durée des gens politiques, c'est Santini qui me disait ça, le maire d'ici Bonino. Il dit « ma ville commence à être cohérente parce que ça fait 40 ans que je suis là ». Alors je dis pas que je vais rester 40 ans, mais je veux dire que quand vous avez un projet et que vous jouez toujours la même partition, vous avez le même plan, ben vous avez plus de chances de réussir que de changer en permanence de projet. Parce qu'il y a des temps longs, je l'expliquais au vœu, moi cette idée de mettre en autoroutier la 2x2 voies, qui à l'époque n'était pas non en Couralonne, mais qui devait passer là du nord au sud à un côté de Chartres, voilà, je propose ça en 2002. Elle va arriver en 2028, 2030, il se passe 30 ans. Vous vous rendez compte? Et avec une multitude d'aléas qui peut faire que du jour au lendemain, ça s'arrête. Alors maintenant, c'est bien engagé, puisqu'on a passé toutes les recours, les contentieux, un peu tout. La délégation de service public, enfin, la concession a été lancée. Donc, bon, j'ai bon espoir de voir ça en 2028, 2030. Bon, ok, c'est fait. Bon, mais tous les projets sont comme ça. Et ça pose une question, parce que comment on va pouvoir lutter contre ce qui se passe dans les autres pays qui avancent à une vitesse folle? Alors, pas des Chinois, c'est excessif, mais partout, l'Allemagne, les autres pays d'Europe, ils vont beaucoup plus vite. Donc, on a alourdi le système. Il y a des gens qui vivent là-dessus, ça leur fait peut-être du bien, j'en sais rien, certainement. Mais en fait, tout le monde le paye. Donc, il va falloir alléger la structure. Et bon, voilà, ça arrive dans les entreprises, ça arrive partout. Mais là, en France, on a quand même un pays de 70 millions d'habitants, on a 6 millions de fonctionnaires ou assimilés. Ce n'est pas possible. Donc voilà, et on le retrouve au quotidien. Alors, les fonctionnaires, on en a besoin. Moi, je défends cette fonction publique avec notamment une partie régalienne qu'il faut renforcer, des choses où au contraire, là, il faut rajouter des moyens supplémentaires. Mais quand on multiplie les moyens partout, eh ben, on peut plus payer l'essentiel. Et personne n'est plus capable de ou vouloir trier entre l'essentiel et le subsidiaire. Eh bien voilà, ça finit mal, quoi.
Alors, le nerf de la guerre, évidemment, c'est le financement. Or, donc, la dotation de l'État baisse considérablement. Vous avez une politique fiscale qui ne veut pas pénaliser les Chartrains. Ça vous oblige finalement à être extrêmement inventif au niveau des financements.
Ah ben oui. D'abord, pour la petite histoire, bon, je parle de la ville de Chartres. Depuis 22 ans que je suis là, on a baissé les impôts chaque année pendant 20 ans. Après, on nous a enlevé ce type de fiscalité, notamment la taxe d'habitation. Mais on a baissé les impôts tous les ans. Il faut quand même avoir un modèle sympathique pour que pouvoir financer tous ces projets que vous voyez éclore à Chartres sans toucher à l'impôt. Au niveau de l'agglomération, c'est un peu différent. On s'appuie essentiellement sur la fiscalité économique. Et on n'avait pas installé cette taxe foncière, alors que toutes les agglos en France ont un produit sur le foncier. Et donc, nous, on a décidé de la mettre en place avec un taux raisonnable. Et on a anticipé parce qu'on sentait bien qu'il allait se passer des choses. Regardez ce qui se passe au niveau de l'inflation, de l'énergie, du GVT, de l'évolution des salaires, tout ça. Donc on a bien fait de faire ça par anticipation. Et ça nous permet aussi de continuer d'investir pour l'agglo, on a encore des beaux projets d'investissement, et surtout assurer une solidarité envers les petites communes qui n'ont pas de ressources de type économique, hein. Elles ont des grandes difficultés. Et nous, on a une dotation de solidarité communautaire, c'est-à-dire qu'on redistribue chaque année une dizaine de millions, et puis on offre des fonds de concours pour des projets, là c'est de l'investissement, à hauteur de 2 millions et demi, 3 millions chaque année. Voilà la contribution de l'agglomération à toutes ces communes. En fait, c'est un montant important, puisqu'il est supérieur à ce que fait le département pour les 450 communes. Donc vous voyez, c'est assez important.
Est-ce que vous attendez à des années difficiles à l'avenir du fait de la crise énergétique évidemment l'État a un déficit qui est abyssal, il va pas pouvoir continuer comme ça à maintenir ce fameux bouclier tarifaire. Est-ce que ça vous fait peur un peu?
Oui, ça me fait peur, mais j'ai écrit là-dessus en 2016. Moi, j'ai bien vu les choses arriver. Vous savez, j'étais 15 ans à la commission des finances, je voyais les choses se construire. Quand vous avez un déficit structurel de 150 milliards et vous avez une dette de 3 000 milliards, à un moment donné, vous vous ferez rattraper par la patrouille. Ça peut pas durer, ça. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Alors en même temps, ça génère des frais financiers énormes, donc ça ampute des possibilités pour l'État de faire un certain nombre de choses. Les gens le voient pas, ça, ils comprennent pas forcément tout ça. Et puis l'histoire de l'énergie. L'énergie, ça s'appuie sur une simple connerie. 1998, il y a une élection sur notre territoire, et il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui s'inverse, mais avec aussi les Verts pour donner la majorité à Lionel Jospin et qui mettent à mort le nucléaire et Beauvilliers, et d'ailleurs l'aéroport de Beauvilliers en même temps. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun politique qui redémarre les choses. Vous avez un gouvernement Chirac qui avait la possibilité de le faire. J'entends Jean-Pierre Raffarin qui dit « Mais comment en est-on arrivé là ?» Il dit « Mais toi, c'est toi le premier, mon vieux. Je le connais bien, mais c'est toi le premier qui n'a pas continué là-dessus. » Ensuite, Sarkozy avec Fillon, ils se posent aussi tous des questions maintenant. Mais ils ont été là aux commandes, ils auraient pu faire que le nucléaire, non seulement ne soit pas affaibli, mais qu'on continue de le développer, puisqu'on est en train de construire la génération 4. Donc grosse responsabilité, là, pendant déjà une dizaine d'années. Bon, François Hollande, il arrive, lui, il va pas se fâcher avec les Verts qui lui donnent sa majorité. Donc vous voyez, sans être au gouvernement, le petit parti qui représente pas grand-chose et qui développe des choses qui sont souvent des inepties. Tout le monde est pour l'écologie, tout le monde est pour l'environnement, tout le monde veut du durable, mais pas cette, et je dirais, écologie politique. Et bon, Macron, premier mandat, il a un équilibre dont il s'attendait même pas. Il peut pas prendre la décision. Il continue sur les mêmes décisions. Donc là, vous laissez passer entre 2002 et puis 2020, presque une vingtaine d'années, et puis le nucléaire, ben tout ça, s'il n'est pas utilisé, si on commence à arrêter les centrales, et ben tout ça, pour redémarrer ça, c'est compliqué. Bon, voilà, vous avez une petite chance, on a peut-être une éclaircie, Madame Borne, qui sait comment ça marche tout ça, elle sait ce que c'est tout ça, elle comprend tout ça, mais elle a décidé de remettre tout ça en marche. Donc aujourd'hui, je suis content, mais il faut aller plus loin, il faut redémarrer la génération 4, les projets comme Astrid, il faut faire un certain nombre de choses pour avancer dans le nucléaire. Parce que c'est la seule garantie d'avoir une électricité stable tout au long de l'année. Maintenant, compléter ça avec des énergies dites durables, bien sûr, mais pas n'importe lesquelles. Alors nous, ici, on est très biomasse. Hein, la biomasse, c'est le bois, voilà, toutes ces choses-là. Alors, des types de bois, il y en a plein de types. Mais donc, ici, on a une centrale avec de la classe B. La classe B, c'est les meubles de bureau, tout ça. Et puis, on a un gros incinérateur, puisque tous les jours, on brûle, toute l'année, on brûle 110 000 tonnes d'ordures ménagères. Donc ça, ça produit de la chaleur, de l'électricité, et puis après, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est important. Donc on continue de développer. On a une grosse expérience de géothermie sur le pôle administratif. Là, on a fait 28 puits à 162 mètres, où on touche le sol à 15 degrés. Là, on est à 15 degrés en bas, donc avec un système de caloporteurs et pompes à chaleur, eh bien, on restitue de la chaleur ici et ça nous permet d'avoir un coût de moins de 10 euros, le coût de l'énergie pour les 15 000 mètres carrés qui sont ici, à l'année, hein, 10 euros à l'année. Donc, c'est exceptionnel. Donc, nous, on veut investir dans la géothermie. À 160 mètres, là, ici, vous avez le terrain à 15 degrés, mais si vous êtes à 1000 mètres, vous allez l'avoir à 41, et si vous êtes à 1800 mètres, vous l'aurez à 70 degrés. Donc, et ça, c'est facile après de chauffer un complexe aquatique, alimenter un réseau de chaleur, de faire plein de choses. Donc, on va généraliser la géothermie un peu partout.
Alors que la crise ne nous empêche pas de rêver, bien évidemment. En 2024, il y aura une très belle nouvelle structure dans le cadre du Pôle Gare, c'est le Colisée qui va permettre tout simplement aux clubs sportifs d'avoir une salle à la mesure de leurs ambitions et puis d'accueillir des grands spectacles, ce qui ne s'était encore jamais produit à Chartres. Ça aussi, c'est une belle nouvelle, ça.
Bah oui, c'est bien. Bon, une jauge raisonnable. Je voyais Orléans, même le maire d'Orléans me disait que c'était 10 000, c'était beaucoup. Je pense 4 000 assis, 6 000 assis debout. C'est une jauge raisonnable pour notre bassin de vie. Je préfère voir quelque chose de saturé à chaque manifestation qu'une chose à moitié remplie. Donc, c'est tout ça. Donc, je pense que c'est la bonne jauge, au bon endroit. Nœud intermodal, tous les moyens de locomotion vont arriver là-bas. Le bus, le train, le car, la voiture, le vélo, vous aurez tout là-bas. Un lieu de stationnement sympathique, 1100 places à côté, 1100 places. Mais en plus, vous avez tous les parkings de cœur de ville qui peuvent répondre. Le premier, c'est République, après Châtelet. Ensuite, vous avez le parking cœur de ville, vous avez le parking, là, ici, la place des Halles. Au total, l'offre de stationnement souterrain en proximité cœur de ville-gare, c'est 3800 places. Vous vous rendez compte? Donc voilà, et puis tout le monde peut venir à pied. Vous avez le relais des portes qui vous emmènera là-bas. Donc je pense que ça va être assez exceptionnel. Donc il faut une programmation exceptionnelle. Les sportifs, eh bien, il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils, on leur demande pas ça. Mais il faut qu'ils jouent au haut niveau pour qu'on ait envie d'aller les voir. Donc ça, c'est important, mais ils savent, ils connaissent ça. Et puis, des manifestations culturelles. Alors, il en faut, moi, je dirais à peu près une trentaine par an, mais je sais pas si on en fera autant, mais avec aussi des noms, quoi. D'ailleurs, l'inauguration, je voudrais que ça soit un nom qui vienne pour lancer le produit, quoi. Alors, j'ai quelques idées. Quelqu'un qui pourrait remplir.
Qui donc? La salle.
Bah, je vais pas vous dire Claude François, vous n'allez pas me croire. J'aurais aimé Charles Aznavour. Non, mais vous inquiétez pas, il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de remplir une salle comme ça facilement. Ce qu'il faut, c'est bien se positionner. C'est pour ça que la fin des travaux, on la suit de près, donc pour pouvoir à un moment donné signer un contrat avec quelqu'un. Donc voilà. Donc, mais là, j'ai vraiment confiance dans ce projet. Et je pense que pas pour la ville de Chartres, hein, pour l'agglo, cette zone urbaine, ça va être le cœur battant.
Il y aura peut-être un jour un deuxième grand pôle touristique. Ça, je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur, un projet que Paul Chemetoff a dessiné. Ce serait plutôt du côté de Saint-Brice avec une mise en valeur de l'archéologie, des jardins, etc. Bon, ça, c'est encore dans le domaine du rêve, mais je sais que c'est un rêve que vous aimeriez voir se réaliser.
Alors, pour moi, c'est pas un rêve, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. J'ai déjà mis beaucoup de moyens pour commencer à dégager les murs, ce sanctuaire du 1er, 2e siècle, vous imaginez. Ça, c'est 1000 ans avant la cathédrale. Hein. Donc, c'est là. Et puis, il y a des répliques qui sont là-haut, devant la cathédrale. C'est la même période. Cette ville, à l'époque où elle était romaine, il y avait un certain nombre de choses. Donc ça, bon, on découvre tout ça. Et puis, on veut transformer vraiment tout ce patrimoine sur le quartier. D'abord, réouvrir l'église Saint-Martin-Val. Il y a pas des grandes choses à faire. Ça a été un moment de fouille dedans. On a mis en évidence un certain nombre de choses. On va refermer tout ça. On va lui remettre de l'électricité correcte. On va refaire la sacristie. Et on va en refaire une paroisse. Il y aura des messes régulièrement. Et mon ami Jackie sera satisfait. Jackie, il est au-dessus de nous, il voit tout ça. Donc il y a plein de choses à faire sur Saint-Martin-Val. Il y a une équipe dynamique entre la commune libre de Saint-Brice et puis les habitants. Là, il y a Il y a vraiment une structure vraiment très intéressante. Là, on a repris, maintenant qu'on veut avancer sur ces travaux, la discussion avec tous ces habitants du quartier. Donc il y a un beau projet, ça va avancer, bien sûr.
Avant de nous quitter, une dernière question. La Chambre régionale des comptes reconnaît des erreurs de jugement à propos de la SPL Chartres Aménagement, dont elle avait pointé du doigt la gestion dans un rapport publié dernièrement. Ça doit vous faire plaisir, mais en fait, c'est un peu inquiétant que la Chambre régionale des comptes fasse des erreurs pareilles, non ?
Oui, on est comment dire, content, on est rassuré, mais on se dit quand même pourquoi on en est arrivé là, quand même, parce que là, c'est une chambre qui fait ce type d'erreur, des erreurs. Je veux dire que c'est pas possible. Moi, je connais bien le magistrat. Enfin, j'ai bien étudié le magistrat pendant les travaux d'audit. J'ai discuté avec lui. Je pensais bien qu'il avait compris tout ça. Quand on voit le rapport, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, ou alors, manifestement, il voulait faire passer des messages à d'autres. Je n'en sais rien. En tout cas, nous, on a fait un recours gracieux. On a expliqué à tout le monde que c'était impossible. Les gens, de toute façon, ils ont les comptes, ils ont les livres. C'est pas possible. Ce qui était raconté, c'était pas notre histoire. Et en tout cas, moi, je veux remercier la Chambre générale de la Cour des comptes, parce qu'on fait un recours gracieux pour dire, écoutez, ça va pas. Regardez bien les éléments. Donc, et d'ailleurs, sans demander d'éléments supplémentaires, ils ont fait ce démenti et sur tous les points, pratiquement. Donc, c'est énorme. Donc, je remercie. Parce que on voit bien qu'il y a de l'honnêteté intellectuelle. Alors, pourquoi c'est passé au travers d'un certain nombre de contrôles, je n'en sais rien, on le saura peut-être, mais en tout cas, je pense que je poserai la question. Mais alors, bien sûr, on est satisfait, parce que cette gestion, elle est bonne. On a des contrôles de partout. Vous savez que dans toutes nos entités, on prend des experts comptables extérieurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit nos propres employés, parce qu'ils seraient jugés partis. Et c'est dangereux. Donc, on prend des experts comptables de l'extérieur. Les commissaires aux comptes sont de l'extérieur. Il y a le contrôle qui est fait par l'État. Et ici, des gens vérifient tout. On a aussi un directeur départemental des finances publiques qui s'investit beaucoup dans tout ça. Donc, ces gens-là, ils comprennent tout ça. Ils savent comment on a pu écrire ça. Alors, le préjudice, c'est important. Bon, jeter l'opprobre sur le président Franck Masluh ou moi-même en tant qu'actionnaire majoritaire. Moi, ça me gêne pas, ça me pèse pas lourd, mais c'est pas normal de faire des choses comme ça. Mais quand on commence à répondre ça et que derrière, on travaille beaucoup avec les banquiers prennent un peu peur. Donc, l'attente du recours gracieux, la communication, ben tout ça, c'est long. Alors, des banquiers, il n'y a pas de problème, ils savent lire les documents, donc ils savent très bien que c'est pas vrai. Mais ça peut jeter le trouble et qu'on ait du mal à discuter avec certains. Alors ça va remettre les pendules à l'heure. Donc on est très, très contents, ouais, bien sûr.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur notre site www.radiograndciel.fr.
La fermeture éclair a glissé sur tes reins. Et tout l'orage heureux de ton corps amoureux. Sur le parquet ciré n'a pas fait plus de bruit qu'une écorce d'orange tombant sur un tapis. Mais sous nos pieds, ces petits boutons de nacre craquaient comme des pépins. aux sanguines, jolis fruits, la pointe de ton sein a tracé tendrement la ligne de ma chance dans le creux de ma main.